L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, on écoute un des intervenants des carrefours de la pensée, Arthur Gosset. Jeune ingénieur qui a abandonné la promesse d'une vie de cadre pour se consacrer à des projets plus en lien avec ses idéaux environnementaux et sociaux. Il a réalisé le film Rupture qui sera projeté pendant les carrefours de la pensée le 22 mars à 14h au Palais des Congrès. On l'écoutera nous parler de sa démarche, puis nous passerons directement aux chroniques étudiantes avec Merlin et Maëlle, suite à quoi je vous proposerai une chronique Pourquoi lire en 2024, sur quoi on finira cette émission. Salut Merlin et Maëlle.
Salut.
Alors on commence tout de suite avec notre invité du jour, et pendant qu'on l'écoute, vous pouvez gagner des places pour Motorline et Sonic Area le 21 mars au Théâtre de Chaoué, en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite on écoute Arthur Gosset.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
Je suis avec Arthur Gosset, ingénieur et réalisateur, notamment du film documentaire Rupture, qui a reçu le prix coup de cœur du jury du Festival international du film écologique et social de Cannes en 2021. Il intervient lors des carrefours de la pensée cette année. Bonjour Arthur Gosset.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
C'est un plaisir. Votre intervention ouvre la section du vendredi 22 mars après-midi, section qui s'intitule « Penser et agir pour le monde de demain ». Et cette intervention porte sur la quête de sens chez les jeunes diplômés. Alors, une question qui est complètement liée à votre parcours personnel, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, exactement. Du coup, moi, je viens de fêter mes 27 ans déjà. Donc, je ne suis plus tout à fait jeune diplômé, mais quand j'ai réalisé la rupture, ouais, j'étais en année de césure d'école d'ingénieur. Et avec des copains, on ressentait toutes et tous le besoin d'avoir un métier aligné avec nos convictions écologiques et sociales, et qui n'était pas forcément les voies vers lesquelles on pouvait nous projeter en fait à la sortie de nos grandes écoles. Moi, j'étais en école d'ingénieur, et donc pas mal de ruptures sociétales, des ruptures avec la famille, les familles qui comprennent pas forcément, qui peuvent être déçues aussi de nos choix d'engagement avec les écoles, avec les entreprises.
Parce que
D'où la volonté de réaliser un film pour parler de ça.
Parce qu'en fait, quand on fait une école d'ingénieur, on est quand même promis à un mode de vie qui est assez confortable financièrement, quoi. Et vous avez changé de cap parce que vous considérez que c'est pas compatible avec votre engagement écologique et social. Et pourquoi ça?
En fait, je pense qu'on peut très bien gagner très bien sa vie tout en apportant quelque chose à la société et avoir un job qui contribue notamment à la construction d'un avenir qui soit plus viable pour l'ensemble du vivant, mais pour autant, les voies vers lesquelles on nous prédestine, pour en tout cas un certain nombre d'entre elles, c'est pas forcément les voies les plus qui ont, où l'impact est au cœur, on va dire. C'est-à-dire que quand on est, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais qu'on fait du génie civil dans des bâtiments modernes, ben en fait, la question de la durabilité, du réemploi des bâtiments, de l'éco-conception, elle n'est pas au cœur de tous les programmes, elle n'est pas au cœur de tous les métiers non plus. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans un certain nombre de secteurs d'activité. Donc il y avait un peu cette quête de sens et le besoin du coup de trouver une voie qui pour moi me semble plus compatible. Maintenant, j'ai des amis qui sont ingénieurs et qui mettent toutes leurs compétences et leur énergie au service du bien commun, au service des transitions. Il y a plein de manières de s'engager et d'utiliser ses compétences pour ça. D'accord. Mais c'est pas, disons, aujourd'hui encore, malheureusement, à la sortie des écoles d'ingénieurs en France et d'ailleurs dans le monde, c'est pas des voies qui sont suffisamment mises en lumière en tout cas.
Et qu'est-ce qu'il faut entendre en fait exactement par cette expression de quête de sens en fait?
C'est la volonté pour moi, après je pense que la quête de sens c'est quelque chose de très personnel, mais moi tel que je la définirais, c'est la volonté de dédier toute son énergie et toutes ses compétences, il y a vraiment cette notion d'énergie et de compétences qui me semble importante, à la construction d'un monde qui soit plus juste et qui soit plus durable. Il y a vraiment ces deux aspects, c'est-à-dire forcément on ne peut pas prendre la transition écologique sans prendre en compte la question de la justice sociale. Et de savoir que du coup voilà, après effectivement on peut pas mettre 100% de son temps au service des transitions, mais au moins avoir un métier qui est utile déjà, rien que ça, sachant qu'il y a quand même beaucoup de métiers qui en fait dans le fond sont pas forcément ultra nécessaires au bon fonctionnement de la société, d'avoir un métier utile où on se dit, ah ouais, là, on apporte quelque chose aux gens, on contribue à voilà, mieux vivre, mieux manger, mieux se reposer ou avoir des meilleurs loisirs. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, le sentiment de se sentir utile et de construire une société qui soit plus viable pour l'ensemble du vivant, parce qu'il n'y a pas que les humains. Pour moi, c'est comme ça que je la définirais, ouais. Contribuer au bien commun.
Et voilà, parce que vous dites utile, mais rien que cette notion d'utilité, en fait, elle a changé avec le temps. Parce qu'avant, avoir un métier utile, c'était avoir un métier qui fait de l'argent, en fait, quoi, tout simplement. C'est plus le cas aujourd'hui, en fait.
Bah, et à la fois, je sais pas, parce que quand on regarde, je pense qu'il y a 200 ans, il y avait beaucoup plus de métiers utiles qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu, on ne va pas rentrer dans l'histoire des métiers, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais j'ai l'impression qu'avec... l'industrialisation et le fait qu'on ait autant d'énergie gratuite avec l'énergie fossile qu'on peut exploiter comme on veut, bah, en fait on a pu créer des machines et ce qui fait que bah, en fait voilà les métiers manuels on s'en est un petit peu détaché. Bon, je dis pas que c'est complètement ça, c'est complètement parti, mais en tout cas voilà on s'en est détaché petit à petit et donc on a créé tout un tas de métiers qu'on appelle pour moi des bullshit jobs, enfin c'est pas moi qui invente ce terme, qui sont des métiers qui sont pas utiles dans le fond quoi. C'est pas des métiers où qui encore une fois vont nous nourrir ou vont nous héberger quoi. Et du coup cette notion d'utilité elle a forcément évolué. Après je pense qu'il y a une autre notion dont vous parlez, c'est la notion de la réussite aussi. Qu'est-ce qu'on appelle la réussite? Là pour le coup, oui, effectivement, dans beaucoup de milieux et dans la majorité de milieux, la réussite c'est avant tout la réussite d'un point de vue financier, c'est le statut social, le poste dans la belle entreprise qui va bien. Ça par contre je sens que ça évolue, parce qu'effectivement maintenant j'ai l'impression que du coup tel que nous on est de plus en plus nombreux à l'avoir, en tout cas comme ça chez les jeunes diplômés, c'est la réussite, c'est avant tout l'impact social qu'il y a derrière son métier quoi. Et encore une fois, pour moi, quelqu'un qui gagne un SMIC mais qui au quotidien sauve des vies a bien mieux réussi sa vie justement qu'un cadre sup qui bosse dans la finance et qui fait des analyses extra-financières dont on n'a pas forcément besoin, en tout cas qu'on a inventé, qu'on a créé pour, voilà, mais qui sont pas ultra nécessaires, on va dire, au quotidien, quoi.
Mais en tout cas, une des causes principales de cette perte de sens dont on parlait, vous l'avez évoqué déjà, c'est une certaine éco-anxiété. Donc c'est en fait une perte de sens qui est assez générationnelle, en fait.
Ouais, bah, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est le fait de ressentir une peur, une angoisse. Il y a pas mal d'émotions dans l'éco-anxiété aussi, un deuil. Vis-à-vis de ce qui nous arrive, vis-à-vis de la destruction du vivant, en fait on parle de ça, hein, on parle de puis c'est pas quelque chose qui est pas réel, enfin on a perdu 70% des vertébrés en 50 ans.
C'est pas une inquiétude dans l'air, c'est une conscience inquiète quoi, l'éco-anxiété.
C'est une conscience inquiète en fait, et du coup c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes de plus en plus qui préfèrent parler d'éco-lucidité plutôt que d'éco-anxiété. L'éco-lucidité c'est vraiment le fait de dire en fait à partir du moment où on a conscience du désastre écologique qui nous arrive aujourd'hui, et qu'on a cette lucidité, forcément qu'on ressent des émotions.
D'accord.
Et c'est des émotions qui peuvent être négatives et qui peuvent être potentiellement même positives aussi. C'est-à-dire qu'on peut tourner la chose positivement en disant, et moi c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, en disant effectivement, je vais être vulgaire, mais c'est la merde, on est déjà dans le mur. Pour autant, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et justement, on peut freiner au maximum cette espèce de progression insensée vers la destruction du vivant. On peut essayer de la freiner, il y a encore de l'espoir quoi. Il y a encore quelque chose, il y a une flamme qui peut nous animer, qui nous anime. Et moi aujourd'hui, mon sens, justement comme vous disiez, moi mon sens je le trouve tous les matins en me levant en me disant je vais pas changer le monde, ça c'est clair et évident, mais en tout cas à mon échelle je vais faire ce que je peux faire, et je vais donner toute mon énergie possible tout en prenant soin de moi et soin des personnes qui m'entourent au maximum, mais je vais donner tout ce que je peux. Et dans 30 ans, quoi qu'il en soit, je me dirais ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Et je peux pas avoir de regard par rapport à ça.
En tout cas,
il y a quand même de l'espoir.
En tout cas, vous n'êtes pas le seul dans cette situation, comme le montre votre film Rupture. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de ce film?
Du coup, c'est un film que moi j'ai fait à la base pour mes parents. Donc, c'est un film qui est très intime et qui est réalisé de manière complètement artisanale, parce que j'avais pas de formation ou quoi, mais je l'ai fait avec mes tripes, en allant filmer des potes qui, comme moi, ressentaient justement cette éco-anxiété ou cette éco-lucidité et l'envie d'agir. Et c'est des personnes qui agissent à différentes échelles, à différents niveaux, qui sont aussi en rupture avec leurs parents, avec leur entourage, avec voilà, mais qui pour autant surpassent et dépassent cette rupture pour aller dans l'action, quoi. Et qui essayent de recréer du lien et qui essayent de, et qui sont dans le fer et qui essayent, et qui ouvrent des voies. Moi, c'est des personnes, je le mets à la fin du film, c'est un film que je leur dédie entièrement. C'est des personnes qui m'inspirent et qui me tirent vers le haut tous les jours. Donc il y a aussi bien Melvin qui a arrêté les études après le bac parce qu'il en avait marre d'être assis sur un banc 8 heures par jour à rien faire. Il s'est dit, moi, il faut que je contribue, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me sente utile. Et donc il a décidé de faire justement sa propre formation. Donc il est allé dans les fermes.
D'accord.
Prendre le maraîchage, il s'est formé à l'éco-construction, il s'est formé à la permaculture, enfin, il a des connaissances exceptionnelles dans notamment tout ce qui relie à la nature. Et aujourd'hui, il travaille en tant que maraîcher et dans 3 mois, il va pouvoir enfin récupérer avoir sa propre ferme. C'est son rêve et c'est assez incroyable et il va nourrir un village.
Ouais, donc c'est des actions très concrètes en fait. Quoi.
C'est très concret, donc ça c'est un exemple pour Malvin, mais on a Maxime, c'est un diplômé de Sciences Po. Et lui, il trouve son engagement dans l'activisme. Et aujourd'hui, notamment, Maxime, il s'engage énormément à travers l'art. Comment est-ce que l'art peut faire passer des messages? La danse, le théâtre, il y a plein de possibilités. Il y a Aurélie, elle a créé le premier village de Tiny House, cette petite maison écologique sur roues. Elle l'a créé en Bretagne, de toutes pièces, qui est un village qui se veut du coup très sobre en énergie et avec un habitat avec des habitats très légers. Elle a réussi à créer un modèle économique autour de ça, un modèle économique viable qui cherche pas l'ultra rentabilité mais qui cherche juste la viabilité.
Okay.
Et ça fonctionne, donc c'est plutôt un projet entrepreneurial. On a Hélène qui pour le coup a fait une école de commerce et qui a bossé dans la grande distribution pendant 2 ans à la sortie de son école de commerce en tant que responsable produit, et puis ça l'a rendu folle en fait de voir le nombre de produits vendus et brûlés inutilement. Ça l'a rendu dingue, donc elle a démissionné. Et puis elle se lance dans un projet, je ne vais pas spoiler, il faut regarder le film, mais c'est un projet qui se veut plus durable en essayant de récupérer les invendus alimentaires. Et puis on va se rendre compte que c'est très difficile aussi, qu'il y a il y a beaucoup d'obstacles en fait au quotidien. Je vais pas tous les citer, mais en tout cas un panel de jeunes qui sont des amis, que j'ai pu filmer dans leur intimité pendant un an, et c'est des personnes qui m'inspirent énormément.
Alors on va écouter tout de suite la bande-annonce du film Rupture.
Non, parce que toi, tu as une pensée, il y avait un courant de pensée, encore une fois, je le dis avec respect, on appelle ça les catastrophistes.
Non, c'est pas catastrophiste, c'est réaliste.
J'ai eu ces discussions interminables avec mes parents des dizaines de fois. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi leur fils, bientôt ingénieur, refuse le job de rêve, la voiture de fonction et le gros salaire par conviction écologique et sociale. Et pourtant, je ne suis pas le seul.
Des étudiants de grandes écoles qui refusent de travailler pour les entreprises qui polluent.
L'élite quand même qui se pose des questions sur le modèle économique, capitaliste, etc.
Des étudiants de grandes écoles se mobilisent.
C'est pas du tout anodin, c'est un franchissement de cap dans l'enseignement supérieur.
Eux aussi avaient un destin bien tracé. Ces 6 jeunes sont de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale. Tous ont fait un choix radical. Renoncer à l'avenir qu'on leur promettait pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Ce film les suit dans leur rupture avec la voie classique proposée par les grandes écoles et dans l'écriture de leur propre histoire.
Bonjour madame, vous êtes de Saint-Brieuc ?
Non. Je tire dessus, voilà. C'est pas comme la blette.
Voilà.
Ah ouais.
Vous avez 2 minutes pour répondre à des questions ?
Moi oui.
Bon bah super.
Il n'y a pas l'eau chaude partout, il y a l'eau chaude que dans ces 2 douches-là et il n'y a pas beaucoup d'eau chaude.
Ils incarnent selon moi ce phénomène sociétal, et j'ai pu les suivre dans leur intimité.
Je pense pas re-rentrer dans le système un jour, quoi.
Ils sont censés s'organiser ensemble, voir ce qu'ils font, sauf qu'ils sont pas capables de le faire, donc...
Je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas pris en compte et que, genre, ce projet, c'est trop difficile, tu vois.
Vous verrez, c'est un film qui sort des codes. Je l'ai fait avec mon cœur, et j'espère qu'il vous permettra de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de notre génération lorsque nous tournons le dos aux banques et aux grandes industries.
C'était donc la bande-annonce du film Rupture. Je suis toujours avec son réalisateur Arthur Gosset. Combien d'étudiants est-ce que vous avez rencontré en fait lors de la réalisation de ce film ?
Alors pendant la réalisation, j'en ai pas rencontré tant que ça. Enfin, moi, j'étais engagé avant dans mon école d'ingé. On avait un petit réseau d'assauts écolo dans différentes écoles. Mais c'est quand le film est sorti en septembre 2021, là, un film qui voulait être pour mes parents a pris un peu d'ampleur, on va dire. Enfin plus d'ampleur, mais c'est tout est relatif, très très relatif, mais. Et on a commencé à être contacté en fait par quelques établissements d'enseignement supérieur.
D'accord.
Et avec Hélène, ma copine, qui est aussi dans le film, justement, on s'est dit, ok, c'est le moment, c'est une expérience assez dingue, on part en tournée. Et on a fait 1 an et demi de tournée. C'était fou. On a rencontré, en tout, on a rencontré à peu près 35 000 étudiants.
Ah oui, quand même.
Dans beaucoup d'établissements différents, que ce soit effectivement les grandes écoles, mais aussi les universités, les BTS, les formations plus courtes.
Oui, parce que de quel diplôme est-ce qu'on parle, en fait?
Alors là, il se trouve que dans le film Rupture, alors hormis Melvin, qui est un cas à part, puisqu'il a juste le bac, dans le film Rupture, on parle vraiment de jeunes diplômés et même des surdiplômés, parce que là, on parle d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, de Sciences Po. Donc c'est, entre guillemets, ce que la France définit comme étant l'élite, quoi. C'est, c'est des jeunes qui ont tout, qui cochent toutes les cases, qui sont passés par les bonnes écoles, qui ont fait les bons diplômes. Et qui, entre guillemets, se rebellent et qui disent non à des boîtes qui ne sont pas suffisamment à la hauteur et qui ne s'engagent pas suffisamment. Et ça contraint aussi les structures et les entreprises à se transformer parce qu'elles ont de plus en plus de mal à recruter. Enfin voilà, c'est un tas de choses qui se passent à ce niveau-là. Donc là, ouais, on parle de ça. Maintenant, ça n'empêche que moi, c'était un choix éditorial hein, de m'intéresser vraiment aux jeunes de grandes écoles, mais ça n'empêche que c'est un mouvement quand même qui est présent dans pas mal de dans un certain nombre de filières, et c'est pas seulement dans les grandes écoles. C'est peut-être plus présent dans les grandes écoles, mais en tout cas ça touche toute la génération et tous les jeunes.
Il est massif, en fait, ce changement de cap.
Le changement de cap en lui-même, il est pas massif aujourd'hui. On va pas se leurrer, il est pas massif aujourd'hui, pas suffisamment pour que l'économie se bouleverse, mais ça progresse.
D'accord.
Ça progresse petit à petit. Maintenant, je pense que on arrive à un stade, si on élargit plus largement justement chez les jeunes de manière plus large, les jeunes de voilà, que ce soit enfin qu'on peut appeler la génération Z, voilà, qui sont nés après 1995, il y a quand même, pour moi, déjà il y a une conscience écologique qui est là, qui est plus ou moins poussée. C'est juste au moins se dire en fait je me sens touché par les enjeux environnementaux. On est tous, on se le dit tous, quoi. Maintenant, la conscience va avoir un différent degré de profondeur. Mais je pense qu'on va, on va arriver, plus le temps va passer, pour moi c'est indéniable, on va arriver à de plus en plus de prise de conscience, et une prise de conscience qui va être encore de plus en plus poussée.
Mais justement, cette prise de conscience, alors qu'on l'appelle éco-lucidité ou éco-anxiété, est-ce qu'elle ne peut pas virer en fait à la panique, à la pétrification, et finalement en fait un certain je m'en foutisme, on est foutu? Comment est-ce que ces jeunes en fait trouvent la force de ne pas abandonner et de faire ce choix radical et ce changement de mode de vie?
C'est une bonne question. Je pense qu'on peut vite, tomber dans ce truc de mais en fait je suis une goutte d'eau dans un océan. Et pourquoi, enfin à quoi bon quoi? À quoi bon m'embêter la vie ou agir dans mon quotidien ou renoncer à certains plaisirs comme le fait de prendre l'avion pour partir faire un voyage de 2 semaines au bout de la planète? Pourquoi moi alors qu'en fait personne ne fait à côté?
Mais c'est ça, l'impression que les efforts seront jamais suffisants en fait quoi.
Oui, en fait déjà à ça. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est très égoïste dans le fait d'agir. C'est ce truc de se dire, comme je vous disais, c'est le truc de se dire, en fait, on agit, mais on le fait pour soi, pour pouvoir ensuite se regarder dans le miroir en se disant, en fait, j'ai fait ce que j'ai pu. Quand on a pris conscience des enjeux et qu'on agit, enfin, franchement, moi, je me lève le matin, mais ma vie, je la kiffe. Ma vie, je la kiffe. Et les personnes qui bossent avec nous, là, on est une dizaine à bosser dans le même assaut, mais on a le smile, quoi. Et entre nous, on est convaincus, on sait de quoi on parle, on sait les désastres écologiques en cours et les désastres sociaux aussi, mais pour autant, on se motive les uns les autres, on n'en parle pas, et c'est comme si on avait des espèces d'œillères, et on regarde du positif. On se tourne vers des gens qui font, des gens qui ouvrent les voies, en fait, et qui sont super inspirantes. Et ça, c'est vraiment un espèce de... Donc, en fait, pour moi, on peut toujours voir le verre à moitié vide, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais pour autant, c'est quand même possible d'agir, et c'est quand même possible de faire les choses.
Mais d'ailleurs, c'est...
Trouver des sports là-dedans.
Mais d'ailleurs, ces ruptures, pour reprendre le terme du titre du film, ne produisent pas des conséquences seulement sur les jeunes diplômés, mais sur leur mode de vie, etc. Ça produit des conséquences aussi sur les grandes écoles qui en sont impactées au niveau de leur programme, c'est ça?
Dans le
sens où il faudrait qu'elles changent leur programme pour pouvoir attirer cette nouvelle génération.
Complètement. Les établissements d'enseignement supérieur, là on parle de grandes écoles, mais les universités, les filières, les formations courtes, elles ont tout l'enjeu aujourd'hui de transformer leur formation et les maquettes pédagogiques pour y intégrer dans toutes les formations de manière transversale les enjeux écologiques. Mais de manière transversale, c'est-à-dire qu'il faut que c'est pas seulement un cours qu'on vient rajouter avec un tronc commun de 30 heures, c'est comment est-ce qu'on vient, qu'on soit en dans une école d'infirmière, on va apprendre qu'est-ce que c'est que la santé environnementale, qu'est-ce que c'est que la santé planétaire, et comment est-ce qu'en tant qu'infirmier ou infirmière, on peut prendre soin à la fois des patients, mais aussi tout en respectant le vivant avec des méthodes de recyclage, avec une approche qui soit plus globale, comme en école d'architecture, comment est-ce que on va construire et inventer des bâtiments qui soient beaucoup plus durables et résilients et sobres énergétiquement, comment est-ce qu'en école de de design, on va concevoir demain les objets dont on va avoir besoin, qui sont des objets qui sont seulement utiles et nécessaires, et on va plus faire du superflu en étant pareil, en faisant des objets qui soient sobres. Comment est-ce qu'en école de commerce, alors l'école de commerce, la raison même de l'existence d'une école de commerce pose question, puisqu'on est dans le fait de vendre plus, mais pour autant l'école de commerce, pour moi, elle peut se transformer en créant des espèces d'entrepreneurs de... j'aime pas trop le terme entrepreneur, mais des personnes qui vont impulser des projets, qui vont œuvrer pour le bien commun, dans des assos, dans des ONG, dans des coopératives, voire potentiellement même dans les entreprises, mais en tout cas qui vont porter des projets, qui vont ouvrir des voies.
Donc il est envisageable.
Plein de possibilités.
Donc il est envisageable pour vous que les élites de demain travaillent à l'élaboration d'un nouveau modèle économique qui soit juste et durable, quoi.
Bah, je pense que oui, après évidemment, c'est pas que les élites qui vont agir toutes seules. Pour moi, il y a un enjeu là de changer d'échelle, et le changement d'échelle, d'ailleurs, il n'est pas très très loin, le changement d'échelle pour embarquer toutes les classes sociales, parce qu'on parle pas seulement des élites, mais toutes les classes sociales, il y a vraiment cette idée de se dire, ok, bah, si on veut tous et toutes s'assurer un avenir, rien que pour nous, en fait, notre génération et la génération de nos enfants, de nos petits-enfants, il va falloir qu'on agisse et qu'on bifurque. Mais que toutes les activités aujourd'hui qui nuisent et qui creusent les inégalités, qui détruisent le vivant, qu'elles disparaissent en fait. Et qu'elles ça s'appelle la redirection écologique. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant et c'est le sujet de notre deuxième documentaire. Ah ben. La redirection écologique, justement, c'est comment est-ce qu'on réinvente nos activités. Et en fait, cette redirection écologique, elle peut venir aussi des travailleurs et des travailleuses qui comprennent que leur métier est en danger. En fait. Parce qu'en fait, voilà, quand aujourd'hui on travaille dans une usine de production de pièces automobiles, quand on est un peu réaliste, on se rend compte que l'automobile, dans 10 ou 15 ans, ça va être très 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 compliqué. En termes de normes environnementales, bien sûr, en termes de problèmes de ressources, de problématiques de ressources, en termes de prise de conscience du public, on va vendre beaucoup moins de voitures qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout le personnel qui travaille à la production d'automobiles en France ou à l'international, les questions vont se poser. Ok, en fait, là, tel qu'on en fait aujourd'hui, c'est pas viable en fait. Ce job-là n'existera plus. Donc si on veut préserver notre emploi et donc la sécurité alimentaire, il faut se réorienter, il faut se rediriger, il faut questionner quelle est la finalité de l'entreprise. Et peut-être une entreprise qui produit aujourd'hui des pièces automobiles peut explorer d'autres pistes de production, j'ai n'importe quoi, des pièces pour vélo cargo. Il y a plein de possibilités en fait pour réorienter les entreprises et les activités. Mais donc pour réorienter l'économie, comme vous dites, ça doit être un mouvement massif qui vient de tous les étages, avec effectivement l'élite qui bifurque et qui va refuser ses privilèges, et c'est la seule qui peut se le permettre, mais aussi peut-être d'autres catégories sociales qui vont se dire je prends mon avenir en main et je veux assurer ma sécurité alimentaire en me projetant dans un emploi qui prend soin des gens et qui contribue au bien commun. Parce qu'en fait, un emploi qui creuse les inégalités, qui détruit le vivant, c'est un emploi qui n'est pas viable et qui, sur le long terme, ne n'existera plus. Moi, je le sais, ça n'existera plus, en fait, simplement.
Alors, le film Rupture sera projeté à 14h vendredi 22 mars au Palais des Congrès. Vous organisez régulièrement des projections de ce film ?
Oui, on organise toujours des projections à différents endroits, un peu partout en France. Vous avez toutes les informations sur le site de Rupture, donc c'est rupture-lo-film.fr, ou bien sur le site de Séisme, qui est donc la structure qui a produit, que nous on a créé, qui a produit Rupture, donc séisme.org. Voilà.
Et enfin, alors je voulais vous demander si vous aviez prévu d'autres réalisations de films, mais du coup vous y avez répondu un peu en avance. Est-ce que vous avez d'autres actions de prévues peut-être ? Je ne sais pas.
Eh bien oui, donc il y a ce film-là sur la redirection écologique qu'on réalise en partenariat avec l'ADEME, qui sortira en mars 2025, dans un an, sur la transformation écologique des organisations. Et puis on organise un gros événement à Rennes en septembre prochain, c'est la deuxième édition, c'est le Forum Séisme.
D'accord.
Le Forum des voies à impact écologique et social. C'est vraiment l'idée de visibiliser justement les manières de s'engager dans son métier auprès des jeunes notamment, auprès des étudiants, auprès des lycéens, et puis auprès des professionnels. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière tous les métiers d'engagés pour faire en sorte justement qu'on ait de plus en plus de monde qui décide de dédier ses compétences et son énergie au service du bien commun dans des métiers utiles. Donc ça, c'est le Forum Séisme, ça sera le 25-26 septembre à Rennes, c'est gratuit. On aura tout un tas toute une programmation avec des experts qui seront présents, avec des tables rondes, des exposants, une centaine d'exposants, une soirée concert avec l'humoriste Swann Périssé, avec d'autres artistes qui seront présents aussi. Ça va être très très chouette.
Eh bien, merci beaucoup Arthur Gosset pour être venu nous parler de votre film Rupture, qui sera projeté au Carrefour de la Pensée au Palais des Congrès le 22 mars à 14h. Juste avant votre prise de parole. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Armand Méliès, soirée Onde Silencieuse. le 24 mars au théâtre de Chaouet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Skip the Use, Nameless World. Retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est mercredi, on est donc avec Merlin et Maëlle. Salut à vous.
Salut. Salut.
Alors on va commencer tout de suite avec Merlin, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Eh ben déjà, moi ça me fait vachement plaisir d'être ici, ça faisait longtemps.
Oui, ça faisait longtemps effectivement.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un dessert que j'adore manger et cuisiner. Le tiramisu.
C'est mon dessert préféré, donc merci beaucoup.
Parfait alors. Avant de commencer, sachez que le tiramisu, tiramisu et pas tiramitsu ou tiramitsu. Bref, commençons.
Important de préciser.
Le tiramisu est un dessert traditionnel italien qui, pour la petite anecdote, veut dire « remonte-moi le moral » ou « redonne-moi des forces ». Donc la recette du tiramisu que l'on connaît n'apparaît dans aucun des livres de recettes datant d'avant les années 1960. Mais plusieurs légendes existent. Et donc elle pourrait expliquer sa création. La première veut que le tiramisu ait été inventé en Toscane au XVIIe siècle. Il aurait été inventé spécialement pour la visite du duc de Toscane Côme III en visite à Sienne. Il aurait été tellement apprécié par le duc qu'il en devint son dessert préféré. Et donc le tiramisu, poussé par le duc de Toscane qui le ramena à la cour de Florence, fut découvert par toute l'Italie. Le dessert se propagea ensuite en Europe, grâce aux auteurs des livres de cuisine. Bon, on raconte aussi qu'à la Renaissance, les Vénitiens offraient du tiramisu à leurs amants pour qu'ils aient plus de vigueur, car on le considérait comme un aphrodisiaque. Eh oui. Ou alors que les prostituées vénitiennes, travaillaient au-dessus des endroits où l'on vendait du tiramisu et qu'elles en achetaient pour se redonner de l'énergie. Sympa le tiramisu. Mais la dernière légende est plus courte et moins folklorique. Effectivement, le tiramisu aurait été inventé pour éviter de gaspiller les restes de café et de gâteau. On ajoutait ensuite un peu de liqueur et de crème de mascarpone pour le rendre meilleur. Mais l'expert culinaire Giuseppe Mafioli attribue la création du tiramisu actuel au chef pâtissier du restaurant Alla Beccheri à Trevisé, Roberto Linguanotto, vers la fin des années 60. La légende, et oui, encore une légende, dit qu'en préparant une glace, Roberto Linguanotto aurait laissé tomber du mascarpone dans un saladier contenant un mélange sucre-œuf. Il a alors fait goûter son dessert à un ami qui l'adora. Ils le perfectionnèrent en ajoutant des biscuits à la cuillère, du café et du cacao. Roberto Linguanotto affirme que son dessert serait un dérivé du dessert italien, le spadudin. Et jamais 304, oui je sais que cette expression n'existe pas, mais sinon ça sonnait mal. Une nouvelle légende. Et oui, le conseiller municipal de la ville de Tolmezzo affirme qu'il aurait mangé un tiramisu dans les années 1940 dans le restaurant Il Vetturino de Peiris. Mais le dessert n'aurait pas été protégé commercialement parlant et se serait donc répandu librement et donc n'importe qui aurait pu prétendre la création du dessert. Bref, après toutes ces légendes, on peut enfin passer à la recette. Alors, il vous faudra 3 œufs, 250 g de mascarpone, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, du café noir, 20 à 24 biscuits à la cuillère et un peu de cacao. Mais moi, comme je déteste le café, à la place, je mets du chocolat chaud. Donc déjà, il vous faudra séparer le blanc des jaunes d'œufs. Ensuite, vous mélangez le sucre vanillé et les jaunes d'œufs. Puis vous ajoutez la mascarpone. Vous mélangez bien au fouet pour obtenir une crème bien lisse. Pendant ce temps, vous faites monter les blancs neige. Après qu'ils soient devenus bien fermes, vous les incorporez délicatement dans la crème de mascarpone. Pendant ce temps, vous faites chauffer du café ou du chocolat chaud, puis vous trempez vos biscuits à la cuillère dans votre boisson chaude et vous les mettez au fond de votre plat. Vous mettez de la mascarpone au-dessus des biscuits et vous recommencez pour finir vos biscuits et la crème. Souvent, 2 couches suffisent. Vous saupoudrez de cacao et vous mettez au frigo pendant 4 heures minimum. D'ailleurs, il existe aussi des tiramisu aux fruits, il suffit juste de remplacer le café par du coulis de fruits. Et maintenant, vous avez un des meilleurs desserts que vous puissiez manger, en toute objectivité. Et vous savez à quel point je suis objectif.
Ça, vous le savez.
Alliant le crémeux, le savoureux, des douces saveurs et juste un tout petit peu de gras. Eh bien, sachez, mes chers chroniqueurs et mon cher Charlie, que vous pourrez goûter ce magnifique dessert.
Yes.
Bref, j'espère vous avoir donné faim et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Merlin pour ta chronique, même si c'est une honte de faire du tiramisu sans café.
Ah,
non, je vais goûter du tiramisu au chocolat, j'ai encore jamais fait, donc on testera. Et on passe tout de suite à la chronique de Maëlle.
Merci beaucoup.
De quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'espoir de l'athlétisme français, Sacha Zoya. Sacha Zoya est né le 25 juin 2002 en Australie. C'est un athlète franco-australo-zimbabwéen, mais il représente la France en compétition internationale. Sacha est un hurdleur. Hurdleur signifie être athlète sur des courses de haies. Sacha, lui, est spécialiste du 110 mètres haies lors de la saison estivale et du 60 mètres haies en intérieur lors de la saison hivernale. Il débute l'athlétisme à l'âge de 8 ans. Très vite, il devient fort. À l'âge de 15 ans, il décroche la médaille d'argent du 100 mètres et l'or sur 200 mètres plat au championnat de France cadet 2018. Le 23 février 2019, Sacha Zoya bat le record de France cadet du saut à la perche lors des championnats de France cadet avec un saut à 5,32 m.
Oh.
Le lendemain, pour ses premières courses sur la distance de 60 mètres haies, il égale le record de France détenu par Ladji Dokouré. Le 1er avril 2019, lors des championnats d'Australie cadet et junior, Sacha Zoya s'empare de la meilleure performance mondiale cadette au saut à la perche en effaçant une barre à 5,56 m. Le 30 juin 2019, il bat le record de France cadet du 100 mètres. Une semaine plus tard, en demi-finale des championnats de France junior à Angers, Sacha bat la meilleure performance mondiale cadet du 110 mètres haies en 12 secondes 87 et améliore de 9 centièmes le record précédent. Il remporte également la finale. Le lendemain, il s'impose en finale du 200 mètres plat. Il devient donc champion de France du 200 mètres. Quelques jours plus tard, il bat le record de France cadet du 200 mètres. Vous l'aurez donc compris, mais Sacha est clairement né pour ce sport. Il est excellent dans trois disciplines. Le saut à la perche, le sprint court, mais également les courses avec les haies. Mais malheureusement, pour obtenir des résultats chez les professionnels, il faut faire un choix. Sacha choisit finalement de consacrer tout son temps aux haies. Le 22 février 2020, au championnat de France, Sacha Zoya bat le record d'Europe junior du 60 mètres haies lors des demi-finales, puis établit un nouveau record du monde junior en finale en 7 secondes et 34 centièmes. Lors des championnats d'Europe junior en 2021, Sacha remporte la finale du 110 mètres haies en décrochant ainsi le premier titre international de sa carrière. Sacha enchaîne avec une victoire un mois plus tard sur les championnats du monde junior à Nairobi. En 2022 est la première année chez les professionnels de Sacha, ce qui implique un passage sur les haies seniors de 1m06. Les haies juniors étaient-elles de 99 cm. Les premiers mois chez les seniors sont difficiles car il doit s'habituer à cette nouvelle taille de haies. Sa première course avec un bon chrono arrive lors des championnats de France disputés à Caen l'été. Il s'impose facilement en série en 13 secondes 24, puis décroche son premier titre national senior en 13 secondes 17, meilleure performance européenne de la saison. Cette performance lui permet de se qualifier pour les championnats du monde où malheureusement il fut éliminé en demi-finale. L'année dernière, il s'impose également en finale du 110 mètres haies lors des championnats de France pour la deuxième année consécutive. Durant les championnats du monde à Budapest en 2023, il améliore son record personnel. Il améliore son record personnel en demi-finale en 13 secondes et 15 centièmes. Et pour sa première finale mondiale, il termine 6e. Maintenant, le nouvel objectif de Sacha sont les Jeux Olympiques de Paris cet été. J'espère vraiment qu'il sera en forme et qu'il performera. Moi, je crois en lui.
Eh bien, merci beaucoup Maëlle pour ta chronique. Alors, on va faire une petite pause pendant laquelle nous allons déguster du tiramisu. Pendant ce temps-là, vous pouvez gagner des places pour Mammal Hands et Dorian Dumont le 28 mars au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37. On se retrouve dans quelques instants pour une chronique Pourquoi lire en 2024, mais tout de suite, c'est System of a Down, roulette.
Explain. I have no reason why it should have been so plain. Have no questions, but I sure have excuse. I lack the reason why I should be so confused. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you. Pictures, the what might be the deuce. Today you saw me, you explained. Playing the show and running down the plane. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you. I feel when I'm around you.
retour dans l'amphi pour une chronique « Pourquoi lire ?» en 2024 sur deux contes pour enfants, Alice au Pays des Merveilles et Coraline.
Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
Une fois n'est pas coutume pour cette chronique « Pourquoi lire ?» en 2024, je voudrais me lancer dans un exercice de littérature comparée et vous parler ainsi de deux œuvres. Plus précisément, deux contes considérés comme de la littérature jeunesse, mais dont l'ambiguïté mène à un questionnement quant à cette adresse à un public juvénile. Je parle d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll et de Coraline de Neil Gaiman. J'ai déjà consacré un « Pourquoi lire ?» en 2023 à Alice, je serai donc bref à son sujet. Alice au Pays des Merveilles est un conte d'abord improvisé à l'oral pour plaire à la petite Alice Liddell et ses amis, et qui relève donc en premier lieu d'une rêverie délirante qui inspirera les surréalistes. Puis le conte a été réécrit pour devenir un conte logique. Le vrai sujet d'Alice, ce n'est pas simplement les images étranges et poétiques, puisque celles-ci ne font que servir le véritable propos de Lewis Carroll, qui consiste à interroger, à travers un système de logique, toute la structure de la langue et en montrer les manques. Dans Alice, tout n'est que jeu de langage. Chaque personnage, chaque événement et chaque jeu de mots questionnent les structures du langage et en dénoncent l'arbitraire, l'illogique, la non-correspondance avec le réel. Alice est un manifeste pour un nouveau langage qui correspondrait au réel, un langage tautologique, où disparaîtrait le rapport signifiant et signifié pour un rapport d'identité entre ce qui est dit et ce qui est. Logique, linguistique, métaphysique, les ressorts d'Alice au Pays des Merveilles sont donc peu accessibles à l'esprit d'un enfant. Sur la forme comme sur le fond, Alice n'est pas réellement de la littérature jeunesse, n'en a en tout cas que l'apparence. Contrairement à Coraline, sa jumelle ou son double plus sombre. Je ne suis pas le premier à comparer Coraline à Alice. La mise en regard est assez évidente. Une petite fille passe dans un autre monde où règne le merveilleux, le fantastique et l'inquiétant. Les deux récits font émerger simultanément l'émerveillement et l'angoisse. Si chez Lewis Carroll, l'inquiétant provient de cet effondrement du langage qui se révèle abscon, mais qui déploie en même temps, dans un effet paradoxal de la démonstration logique de Carroll, tout son potentiel poétique, chez Neil Gaiman, la peur est presque plus directe, beaucoup plus directe, viscérale. C'est la peur du double, de la reproduction défigurée, l'identité non identique. La familière étrangeté, ou unheimlich, pour reprendre le terme freudien, et qui est à la source du sentiment de fantastique. Peut-être dois-je m'arrêter un peu sur le sujet de Coraline, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est donc un court roman de Neil Gaiman qui raconte l'histoire d'une petite fille qui emménage dans un bled sinistre, dans une maison tout aussi glauque. Délaissée par ses parents occupés à travailler, Coraline explore la baraque et découvre un passage secret qui l'emmène dans une réalité alternative, un autre côté du miroir en quelque sorte, où le monde est reproduit comme un reflet déformé. Tout lui semble d'abord beaucoup mieux que dans le monde réel. C'est le fantasme d'un enfant devenu réalité. Ses voisins deviennent des clowns au numéro hilarant et spectaculaire. Et surtout, sa mère lui porte énormément d'attention. Détail étrange, cependant, tout le monde ici porte des boutons à la place des yeux. L'autre mère finit par lui proposer de rester dans ce monde merveilleux à condition que Coraline se fasse coudre, elle aussi, des boutons sur le visage. Vous sentez le coup fourré venir. Hein. Le roman de Gaiman a été adapté en film d'animation par Henri Selick, le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je peux vous dire que ce dessin animé a traumatisé tous les enfants qui l'ont vu. Pourtant, je ne crois pas qu'on puisse, comme pour Alice, dire que Coraline se trompe de public et qu'il s'adresse plutôt à des adultes. Le style du roman est assez simple, accessible à des jeunes lecteurs, et le dessin animé, dans la même veine qu'un Tim Burton, répond au format du film pour enfants. Pourtant, tous les enfants qui ont lu ou vu Coraline s'en souviennent comme quelque chose qui les a marqués du sceau de la peur. Mais cette peur parle précisément aux enfants, en mettant en scène le fantasme d'une réalité enjolivée qui se révèle être cauchemardesque. Coraline exhibe l'imaginaire enfantin comme l'intérieur sombre d'un écorché. C'est la putréfaction des rêves, le sinistre avertissement du mortifère dans lequel se complaît le fantasme imaginaire en tant que fuite de la réalité. À sa manière aussi, Coraline, comme Alice au Pays des Merveilles, est un plébiscite contre toutes les inventions humaines qui refusent de se contenter du réel. Chez Alice, le langage, chez Coraline, le fantasme. Mais Comme Alice qui, en exhibant les failles du langage par la logique, en déploie le pouvoir poétique, Coraline, en démasquant le fantasme comme pure production d'un ça pulsionnel et violent, en dépeint toute la beauté macabre qu'ont pu chanter Baudelaire, Nerval, Lautréamont et Antonin Artaud. Neil Gaiman est un écrivain de l'imaginaire, c'est-à-dire un enfant qui résiste à la lâcheté adulte qui consiste non pas à ne plus fuir le réel, mais à ne plus en chercher les alternatives susceptibles de laisser l'homme s'accomplir en tant qu'être poétique. La morale de Coraline, ce n'est donc pas de se contenter du gris du réel, mais d'aller chercher la couleur, fût-elle vénéneuse, dangereuse, mortelle, et en revenir plus vivant que les terriens. Alice et Coraline sont devenues deux figures mythiques, celle de l'enfance qui interroge, doute, reformule et choisit, au péril de la raison, de créer le monde.
Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
je construis des marionnettes avec de la...
Merci à vous d'avoir suivi l'amphi. On vient d'écouter MGMT Kids. On se quitte sur les marionnettes de Christophe. On se retrouve jeudi 21 mars pour parler de l'intervention au Carrefour de la Pensée de Pascal Thumerel sur la responsabilité sociétale des industries culturelles, mais aussi de l'exposition sur l'abstraction visible en ce moment au musée de TC. A bientôt dans l'amphi.
C'était l'amphi, l'émission étudiante.